la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ces albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Le jour de la marmotte est un événement célébré en Amérique du Nord, le jour de la chandeleur, soit le 2 février. C'est le Groundhog Day. Selon la tradition, ce jour-là, on doit observer l'entrée du terrier d'une marmotte. Si elle émerge et qu'elle ne voit pas son ombre parce que le temps est nuageux, l'hiver se terminera bientôt. Par contre, si elle voit son ombre parce que le temps est lumineux et clair, elle sera effrayée et se réfugiera à nouveau dans son trou, et l'hiver continuera encore pendant 6 semaines. En Europe, la journée de la marmotte n'est pas un événement très présent dans le calendrier. Normal, il y en a peu, sauf celles qui emballent les tablettes de chocolat. Au Canada, cette tradition remonte au Moyen-Âge et a donné des siècles plus tard naissance à des festivals dans plusieurs communes des États-Unis et du Canada, comme en Pennsylvanie, où se déroule l'action du film Un jour sans fin avec Bill Murray. Le but est surtout de créer un événement touristique pendant la morte saison. La marmotte vit même dans une petite maison à l'année, loin des prédateurs. S'il y a un fond de vérité dans cette tradition, les jours ensoleillés sont généralement associés à l'air froid d'un anticyclone d'origine arctique, tandis que les jours nuageux sont plutôt provoqués par des dépressions à l'air doux et humide, les météorologues canadiens ont évalué le taux de réussite des marmottes de 13 îles du Canada sur 40 ans. Leur verdict est sans appel, le taux de succès des marmottes est de 37%. Du côté des Américains, le taux de succès est évalué à 39% depuis 1887 par le National Climatic Data Center. Celui-ci souligne que les rongeurs ont progressé en fiabilité ces dernières années. Peut-être assez pour concurrencer Météo France, qui sait. Et maintenant, le sommaire de la matinale. Au sommaire de cette matinale de Zoom. Dans le premier, nous recevrons le directeur de la publication Simon Deveau ainsi que Diane Perroux, la co-rédactrice en chef, ainsi que le co-rédacteur Sacha Festi. Et nous parlerons de la nouvelle revue du cinéma Terme, excusez-moi. Ils seront interviewés par Mustapha et Farah. Le second Zoom portera sur le nouvel album de Meryl Hamp, Two Daughters, et sur le concert donné aux Instants Chavirés à Montreuil. Le Flash Info sera présenté par Francesca. Et enfin, aux chroniques, il y aura Kerian et Francesca. Et on commence tout de suite avec le premier Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Dans ce premier Zoom, nous allons parler de la revue Terme, une revue de cinéma qui veut laisser un espace d'expression aux jeunes. À cette occasion, nous recevons Simon Deveau, directeur de la publication, ainsi que Diane Perroux, la co-rédactrice en chef, et Sacha Festi, co-rédacteur. Bonjour à tous. Bonjour. Ils seront interviewés par Mustapha. Bonjour Mustapha, bonjour Farah, et je vous laisse la parole.
Bonjour, merci. Alors c'est un plaisir de vous recevoir, parce que je pense que c'est votre toute première interview.
Oui.
On est ravis d'être votre baptême de feu. Et donc, vous, à la base, vous êtes une bande de potes. Est-ce que je me trompe? Non.
Si, tout à fait. C'est comme ça que c'est né. C'est comme ça que ça existe encore là pour l'instant. Et puis, c'est un peu ce qu'on a voulu créer avec cette revue, mais on va en parler, quoi.
Oui, bah, tout à fait. Et vous êtes tous les trois, au moins, si pas les 20 rédacteurs et rédactrices de ce premier numéro zéro, amoureux du cinéma. Et qu'est-ce que... Et vous avez créé cette magnifique revue que j'ai entre les mains qui s'appelle Terme. Allez voir sur le site, ça vaut vraiment la peine de le prendre aussi en format papier. Elle est magnifique. C'est quoi Terme, pour ceux qui ne peuvent pas l'avoir entre les mains aujourd'hui?
Alors, comme tu l'as dit, c'est d'abord une revue de cinéma. C'était parti de l'envie juste tout simplement d'écrire sur le cinéma et dans une forme plus libre que ce qu'on lit d'habitude dans la critique, etc. Et puis, c'était aussi l'idée d'avoir un moyen d'expression à nous. Il y a une très bonne amie à nous qui nous a dit un jour faites un truc qui vous ressemble, et on avait envie d'écrire et d'écrire comme on voulait et de proposer aux gens qu'on aimait et qui aiment autant le cinéma que nous d'écrire de cette même façon-là, libre, et ça a donné ça.
Vous partez d'un vers de poésie pour penser le cinéma. D'où vient cette idée?
C'est un peu l'idée que nous, dès le début, on avait envie de travailler sur une revue papier, donc avoir un numéro qui a une identité et une unité, qu'il y ait une certaine cohérence dans le numéro. Donc on réfléchissait à ce qu'on pouvait donner. Est-ce que ce serait un... Parce qu'on ne voulait pas vraiment se coller à l'actualité. On voulait que ce soit libre, qu'on puisse parler de films anciens, de... Mm-hmm. pas que ce soit de la critique, de réaction à ce qui sort en ce moment. Et du coup, on pensait à des thèmes, on comparait à d'autres revues qui ont des thèmes. On se disait que c'était toujours un peu limitatif et que ça allait bloquer plein de gens. Puis après, on a eu cette idée de proposer un vers de poésie et de proposer aux gens de l'interpréter comme ils veulent, de le tordre comme ils veulent pour arriver à un sujet qui leur serait complètement propre.
Donc, le point de départ, c'est la liberté.
Ouais.
Enfin, la recherche de cette liberté. J'ai vu que d'autres points qui étaient importants pour vous, c'était l'accessibilité et l'inclusivité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Comme vous l'avez dit, là, pour le premier numéro, on a un peu cherché, effectivement, à... Enfin, d'abord, on a cherché chez nos potes, parce que c'était un peu le numéro expérimental. Mais c'est vrai que le but de ce prochain numéro, c'est que vraiment... tout le monde puisse écrire dans le terme et que ce soit spontanément les gens qui viennent vers nous et que ça sorte de cette bulle là et l'idée c'est que le travail qui va être celui de notre accompagnement de relecture avec le comité de rédaction, parce que là on est trois mais on est plus que ça à travailler avec les personnes qui écrivent.
Vous êtes combien?
On est,
je crois qu'on est 18, quelque chose, un peu plus peut-être.
Ouais, une vingtaine en gros.
Une vingtaine à écrire.
Une vingtaine à écrire et environ 7 à suivre les personnes qui écrivent.
Après, écrire, pas que, parce qu'on a beaucoup de production visuelle. Et en fait, c'était aussi ça qu'on proposait, c'est que les gens puissent venir avec des idées. Donc là, on a des bandes dessinées, on a des collages photos, on a pas mal de choses différentes.
Et de la photo aussi. Enfin, le but, c'est effectivement que dans cette idée de liberté, que les gens puissent avoir des formes qui soit se rapprochent de la poésie, soit de formes plus visuelles, et que c'est ça qui fait que c'est un peu un objet un peu hétérogène et où on passe à ce point-là d'une chose à l'autre. Et c'est ce qui nous plaisait, en fait.
D'accord. Comment choisissez-vous les textes et les regards que vous publiez ?
Là, comme on a dit au tout début, vu qu'on faisait surtout avec des copains, copines, et que on était un petit peu entre nous, même si on a essayé de chercher ailleurs, de rencontrer de nouvelles personnes, et ça a été le cas, on a essayé de tout publier. Alors ça a fait l'objet d'un retravail, etc., pendant un ou deux mois. Mais là, le but de ce premier numéro, enfin de ce numéro zéro, c'était d'essayer de publier tout le monde. Et c'est quelque chose qu'on va essayer de dépasser, je pense, pour le numéro un. Enfin. Ce truc que disait Diane, d'aller plus loin, de sortir un peu de cette bulle de copaine.
Oui, justement, le numéro zéro s'appuie sur des vers de Sylvia Plath, Lac Noir, Bac Noir, deux sulettes de papier découpé, jusqu'où s'étendent les arbres noirs qui s'abreuvent ici. Pourquoi ce choix pour lancer l'aventure?
Alors, je crois que, du coup, on est tous les trois, on choisit le vert, on cherche, on fouille, et on choisit au final un vert qui va donner la couleur un peu du numéro. Et je crois que c'est, on le trouvait hyper intéressant parce qu'il apportait un univers qui pouvait être très cinématographique, à la fois aussi très, très poétique, et que, enfin, c'est d'abord ça qui, enfin, on avait l'impression qu'on pouvait le tirer dans plein de directions différentes, et que aussi, par rapport à ce qu'on disait sur la forme visuelle, c'était déjà un bon point de départ, quelque chose qui allait... qui apportait un mouvement aussi, donc il nous semblait assez adapté en fait à ce premier numéro qu'on voulait.
Je parlais de l'objet papier tout à l'heure, qui est encore une fois, je le répète, sublime. Allez vous le procurer. Pourquoi ce choix-là à l'ère du numérique ? Parce que j'ai découvert que votre offre numérique est gratuite. Pourquoi faire aussi en parallèle ce choix du format papier qui, lui, bon, on comprend, est payant ?
C'est comme ce qu'on a dit, c'est que vu qu'on essaie de... Enfin, déjà, on aime beaucoup l'objet papier parce qu'on a une appréciation de l'objet livre, mais faut quand même le justifier. Mais c'est que vu qu'on a des rédacteurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qu'on va essayer aussi de toucher à la fois des objets cinématographiques qui sont très connus et des objets plus obscurs, d'avoir un ensemble. Les gens viennent pour peut-être un, deux articles, pour un cinéaste, pour quelque chose qu'ils ont vu en le feuilletant et qui les a intéressés, et que de là ils puissent aller piocher par-ci par-là, parce que tout est ensemble réuni, et aussi un peu pour restituer cette dynamique de, enfin, un peu de groupe qu'il y a eu de création commune et un peu justifier le concept du numéro en voyant toutes les possibilités qui partent de ce vers de base.
D'accord. À qui s'adresse-t-elle ? Aux cinéphiles avertis ou à ceux qui aiment juste se laisser traverser par les images ?
Les deux et tous les autres. Enfin, le but, c'est ce que vient de dire Simon, c'était à la fois de laisser les gens libres d'écrire et de dessiner, de contribuer, peu importe la forme, en allant piocher dans des objets cinématographiques qui sont connus de tous et toutes, mais aussi d'aller un petit peu chercher, un peu creuser, aller plus loin, aller chercher des films qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit plus. Et donc, c'est dans cette dynamique-là d'accessibilité qu'on essaie en tout cas d'écrire, de publier des choses qui rendent tangible à la fois ce qui est déjà accessible et ce qui ne l'est pas forcément. Et donc, porter un peu à toutes et tous ces cinémas-là.
Justement, toujours sur cette question d'accessibilité, sur le fait aussi de sortir de cette petite bulle de copains-copines et en même temps de sortir de formats assez rigides et justement d'ouvrir. J'ai l'impression qu'il y a une ouverture de tous les côtés qui est recherchée. Comment vous comptez vous y prendre pour essayer de se dire tout le monde pourrait penser à terme pour dire en fait j'ai envie d'envoyer mon petit article. Parce qu'en fait, parfois c'est un petit peu, enfin moi je pense comme une galerie d'art, c'est un petit peu compliqué d'aller ouvrir la porte et d'aller dire ça, c'est ce monde m'appartient aussi. C'est pas un monde pour les autres ou d'une autre classe sociale. Et j'ai l'impression que pour le cinéma, avoir ses codes, c'est parfois ça aussi, surtout dans des cinémas un peu plus niches, qu'on voit moins, qui sont moins populaires. Comment vous pourriez vous y prendre ou comment vous l'avez pensé de faire cette passerelle ?
C'était
une question tunnel.
Non, c'était super. On a plein de solutions et puis vu qu'on... En vrai, on débute, on essaie d'apprendre au fur et à mesure tout ça, et il y a plein d'idées qui germent un peu dans notre esprit, on essaie de se les partager, etc. Et on est nombreux, nombreuses, donc ça nécessite beaucoup de communication, tout ça. Mais on aimerait beaucoup faire des ciné-clubs, aller rencontrer dans ces ciné-clubs-là la diversité des publics dont on parlait tout à l'heure, se mettre en contact, en tout cas essayer d'intervenir dans des universités, autant auprès de jeunes L1 que de doctorants, que essayer d'ouvrir le plus possible, en fait... d'aller dans les lieux où le cinéma s'apprend, se fait, se parle, se distribue, tout ça. Et autre, il y a aussi, il me semble, dans le site internet, à travers les réseaux sociaux, quelque chose de l'ordre de l'accessibilité, du déclenchement de l'envie d'écrire qui peut exister.
Ça, ce serait une stratégie, par exemple, plus passer par les réseaux ?
Je crois que c'est un peu déjà le cas en ce moment. C'est aussi, c'est un espace qu'on essaye d'habiter le plus possible. Notamment pour l'instant on n'a pas encore de librairie où on peut vendre le numéro, donc ça passe plus par là en fait pour le moment, et c'est aussi un avantage peut-être pour le moment que ce soit aussi ce truc là des réseaux qui nous mettent dans une forme de peut-être de mouvement et de faire venir les gens plus vers nous directement plutôt que par des intermédiaires plus classiques.
Et justement, concernant le numéro, quel a été le premier retour du public sur ce numéro ?
Après la fameuse release party du 31 d'avant-hier, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Festive, quels ont été les retours ?
Festive, il y avait énormément de monde. On était, je pense, tous et toutes émus, impressionnés du monde qu'il y avait. Et je crois, si je ne me trompe pas, les copains, que ce qu'on nous a le plus dit, c'était ce que vous nous avez dit au début, c'était l'objet, c'était la maquette. Et on tient à remercier quand même Oscar Griveaux, il n'est pas là avec nous, mais parce que c'est lui qui a fait la maquette. Et c'est un travail de dingue, et c'est ce qui est le plus ressorti en fait.
Après, il y a matière à lire et je pense que le dimanche du lendemain est un peu compliqué pour tout le monde. Donc on va peut-être un peu attendre quelques jours, mais on a vraiment vraiment hâte, et je crois qu'il y a des lecteurs assidus qui ont déjà envoyé des retours et on est ravis qu'il ait direct été ouvert ce numéro. Quoi.
Ok, justement, vous dites que Thème est un laboratoire. Je voulais savoir qu'est-ce que ça change dans votre façon de faire ?
Comme on disait sur notre travail avec les personnes qui écrivent dedans, il y a vraiment l'idée que ce soit un travail collectif et que ce soit quelque chose qui dure dans le, sur le long terme, en fait, entre le moment où on nous propose une idée et l'article fini, il y a tout un travail de dialogue, de relecture et de, enfin, des idées qui germent dans tous les sens, on va dire. Et donc c'est un peu ça l'idée du laboratoire, c'est l'idée que c'est hyper important ce qui se passe dans le moment où on va discuter avec les personnes qui écrivent dedans. Aussi, l'idée qu'il y a des formes très différentes qui puissent prendre vie dans ce numéro, et que ce soit tout ce qu'on disait depuis tout à l'heure, que ce soit quelque chose un peu touche à tout, le rapport à la poésie aussi qui fait que ça, c'est des chemins un peu différents, on va dire, d'écriture et de manière de parler de cinéma que ce qui est plus habituel. Enfin, on l'espère, et on espère que c'est quelque chose qui peut inspirer aussi les gens à écrire sur le cinéma.
C'est aussi un peu une école pour nous, parce que du coup, pour ce premier numéro, on est beaucoup dans les gens qui relisaient les articles, qui suivaient les rédacteurs pour avoir un vrai dialogue. On était beaucoup à écrire, donc on apprenait à la fois à écrire sur un format, on a une vraie exigence, on sait que ça va être imprimé à la fin, et on apprenait à dialoguer, à faire ce travail d'éditeur et même toutes les étapes du travail qu'implique une revue comme ça, quoi.
Et donc ça, c'est une revue, on arrive à la fin de notre interview, que les gens pourront retrouver de manière semestrielle.
Oui. Biannuelle, globalement.
Oui, biannuelle, semestrielle, c'est selon vos amours du langage, voilà. Le format va être toujours aussi libre. Est-ce qu'on s'attend à des petites pépites pour la suite? Est-ce que vous avez déjà des petits spoilers ou des petites choses à partager sur la prochaine? Il y a déjà une petite date, un mois, je ne sais pas.
Alors, on est encore en discussion avec nos super éditeurs de chez Paradox et Medias Res, qui est une association qui date de l'année dernière et qui nous ont grave accompagnés. Il fallait qu'on parle d'eux. Le prochain numéro va être sûrement différent, parce qu'on va apprendre de ce qu'on a fait là. Et voilà.
Les personnes sont les bienvenues pour vous contacter.
Oui.
Sur vos réseaux.
Bien sûr.
Donc voilà, vous êtes présent sur Instagram, LinkedIn. Des carousels incroyables, merci pour ça. pour que ce soit ouvert, est-ce qu'il y a un cinéma club, quelque chose qui se passe dans l'espace public ou qui est aussi en train d'être pensé? Comment s'y en courant de tout ça, en fait?
Ça ne saurait tarder, ce sera, je pense, le plus rapidement accessible par nos réseaux sociaux, en fait. On dit dès qu'on a les informations. Et d'ailleurs, ce sera pareil pour les librairies, on est en train de discuter tout ça et ce sera accessible, les informations vont circuler par ce biais-là surtout, voilà, donc faut rester branché.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette interview.
Fabien,
je te laisse la main.
D'accord. Eh bien, merci donc Sacha Festi, monsieur. Merci Diane Pérou, Simon Devaux, Farah et Mustapha. On parlait de la revue Terme, donc, qui vient de sortir, son premier numéro vient de sortir. Et maintenant, on écoute Ruby Organique. I prefer it organic. Better songs, better souls, better ends for the planet. I got a couple friends that are liable to panic, and if the cause never stops, then I'll just undo the damage. I'd like my words to be free, some courtesy please. I'd like a message red, then I'll have to be green. I'd like some better plants with some better seeds, and if they shut up for a second, then some truth or not. Don't know about what it means. Balls, I was busting up my dreams. The whole world's blessing that I see. So do what I want and what I need. Say you like a free life and maybe you don't. And you can have a free ride but I know you won't. And you can ride the tide only if you can float. And all that shit's same, man, I think it's a joke. Oh. Politics and with dialect beat.
cuts, all the stuck in the weaving, sort of believing, repeating, 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 it's the nobody speak up. Some fake news, trying to holla my line. It's like bad news, thicker all of the time. No, you don't even have to read that mind. You just give us what we want, give us what we want. No. Living life, I prefer it organic. Better songs, better souls, better ends for the planet. I got a couple friends that are liable to panic. And if a cause never stops, then I'll get under the damage. I'd like my words to be free, some courtesy please. I'd like a message read, then I'll have to be green. I'd like some better plants with some better seeds. And if they shut up for a second, then some truth or not. Living life, I prefer it organic. Better songs, better souls, better ends for the planet. I got a couple friends that are liable to panic. And if a cause never stops, then I'd get under the damage. I'd like my words to be free, some courtesy please. I'd like a message read, then I'll have to be green. I'd like some better plants with some better seeds. And if they shut up for a second, then some truth or not.
C'était Ruby Organique sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et je suis avec Francesca qui va nous parler des invendus alimentaires. Bonjour Francesca.
Bonjour Fabien, bonjour à tous. Invendu alimentaire, ce qui va changer en 2025, normalement au printemps. Le gouvernement vient d'annoncer qu'un arrêté devrait être pris au printemps pour permettre aux salariés des commerces alimentaires de récupérer des invendus encore consommables. Une annonce qui peut sembler technique, mais qui s'inscrit dans une histoire beaucoup plus large. Rappelons d'abord, dans le cadre, que depuis la loi Garot 2016, les magasins alimentaires de plus de 400 mètres carrés ont l'obligation de donner leurs invendus comestibles à des associations caritatives, banques alimentaires, restos du cœur, associations locales. L'objectif était lutter contre le gaspillage alimentaire et mieux redistribuer ce qui peut être encore consommé. Aujourd'hui encore, environ 300 000 tonnes de produits alimentaires encore consommables sont jetées chaque année en France. Des fruits, des légumes, du pain, des produits proches de la date limite, des articles abîmés dans leur emballage mais parfaitement comestibles. Le système n'est pas parfait, toutes les associations ne peuvent pas tout récupérer. Il y a des contraintes logistiques, des contraintes de référencement, des problèmes de transport, de stockage et parfois simplement un décalage entre ce qui est disponible et ce qui peut être pris en charge. C'est là qu'intervient la nouvelle proposition du ministre du Commerce, Serge Papin. Autoriser la récupération des invendus par les salariés eux-mêmes uniquement pour ce qui n'a pas pu être donné aux associations. Autrement dit, les associations restent prioritaires, mais les produits ne finiraient plus systématiquement à la poubelle. Aujourd'hui, le principal frein est juridique et social. Lorsqu'un salarié repart avec des invendus, cela peut être considéré comme un avantage en nature, soumis à cotisation par l'URSSAF. Je vais mettre un peu de mon expérience dans cette chronique. J'ai passé 22 ans en grande distribution, l'intégralité de ma carrière, ou presque. Je peux vous dire une chose, la récupération d'invendus par les équipes, ça a déjà existé. À l'époque, c'était informel, peu encadré, l'intention fut bienveillante, mais ça devenait problématique. Certains abus conduisent les directions à tout verrouiller, et ce qui aurait pu nourrir des familles a fini à la benne. La nouveauté aujourd'hui, c'est justement l'idée de remettre un cadre plutôt que d'interdire, imaginer des règles, de la traçabilité et jamais perdre de vue l'objectif de lutte contre le gaspillage. Concrètement, si cette mesure voit le jour, elle pourrait concerner près d'un million de salariés, caissiers, préparateurs de commandes, boulangers, bouchers, employés de rayon, logisticiens et même certaines petites enseignes. Au-delà du symbole, c'est un double enjeu. D'abord environnemental, parce que moins de nourriture jetée, c'est moins de déchets. Puis social, parce que cela peut représenter un petit coup de pouce pour des salariés souvent modestes. Si cet arrêté tient ses promesses, Fabien, ce sera une étape de plus vers un modèle de consommation plus responsable et bien sûr plus humain.
Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite. Merci Francesca. Et de toute façon, tu restes avec nous puisque tu nous présentes le Flash Info.
Oui, bien sûr.
Le flash info de la matinale de 19h.
En France, ils étaient 45 000 selon le syndicat Alliance, dont 15 000 et 20 000 à Paris. Samedi, dans une vingtaine de villes, les policiers se sont mobilisés. Ils dénoncent le manque de moyens et l'état dégradé des commissariats. En France, elles sont au moins 4 millions à attendre ce décret, le remboursement des protections périodiques. Adopté fin 2023, le remboursement des coupes et culottes menstruelles attend toujours le décret d'application que la ministre Aurore Berger avait promis pour fin 2025. Léo Cadier-Raymond, Pauline de Saintenac et Marion Goualave, trois dirigeantes d'entreprises fabricantes de ces protections, ont rappelé l'urgence dans une lettre ouverte envoyée à plusieurs ministères en janvier. Au 30 janvier, cette lettre n'a reçu aucune réponse. Côté consommation, j'en ai parlé tout à l'heure dans ma chronique, les salariés des supermarchés devraient pouvoir récupérer les invendus alimentaires encore consommables de leurs magasins. Le ministre du Commerce, Serge Papin, vise un arrêté au printemps. Depuis 2016, pour lutter contre le gaspillage alimentaire, les grandes surfaces doivent donner leurs invendus à des associations et pourtant près de 300 000 tonnes finissent encore à la poubelle chaque année. Et enfin, pour finir, à l'international, un risque d'effondrement financier imminent. L'ONU a lancé l'alerte. Antonio Guterres, son secrétaire général, cible plusieurs États, notamment les États-Unis, qui ont réduit ou retardé leurs contributions. Conséquence, gel des embauches et réduction de certaines missions terrain.
Eh bien, merci Francesca. Et tout de suite, on écoute Cocteau Twins, Bluebell Knoll.
Yeah.
C'était Cocteau Twins, Bluebell, Knoll.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et dans ce deuxième Zoom, nous recevons Meryl Hamp qui vient nous présenter son album Two Daughter. À cette occasion, il y aura un concert aux instants chavirés. Il est interviewé par Farah. Bonjour Meryl Hamp.
Bonjour.
Bonjour Farah. Et
bonjour,
je te laisse la parole.
Alors Meryl Hamp, j'aimerais bien d'abord, merci, parce que je dois faire une petite confession. Moi, est-ce qu'on se tutoie ?
Carrément.
Ok, on se tutoie. Moi, je ne te connaissais pas avant cette émission. Et du coup, c'est à travers la préparation que j'ai découvert l'artiste que tu étais. Et j'étais hyper enthousiaste, excitée. Je vais essayer de partager ça avec les auditeurs et auditrices. Alors, pour te définir, je trouve que ce n'est pas si simple. J'ai vu artiste sonore et sculpteur. Moi, j'ai l'impression que c'est créateur d'expériences sonores. Mais ouais, qu'est-ce qui te convient aujourd'hui pour te décrire ?
Artiste sonore, musicien, ouais. On va dire ça, compositeur, ouais. Parce que bon, la sculpture, j'en fais plus comme on l'entend, dans le sens, je faisais de la sculpture sur bois, des installations, il fut un temps, et là, c'est vrai que c'est plus le médium sonore que j'utilise pour m'exprimer, en performance live et sur des compositions, voilà, qu'on écoute, par exemple pour un album.
Alors, pour une personne qui crée un artiste sonore, il y a souvent donc évidemment le médium, le son, puis après on peut avoir des lives, des commandes, on ouais, peut avoir un album que tu viens défendre aujourd'hui.
Ouais.
Mais c'est quand même rare d'essayer de traduire l'expérience du live dans un album.
Exactement.
Et donc j'ai l'impression que c'était tout l'enjeu de cet album-ci.
Ouais.
Et comment on fait ça ? Comment on fait ?
Déjà, l'album, il y a 4 ans de travail, ça regroupe des morceaux, parce qu'il y a 15 morceaux, donc c'est un double album, il y a une partie où il n'y a que des morceaux, et d'autres, c'est des extraits de live. En revanche, donc des extraits de live de Sonic Protest, du festival Plein Bruit, et puis d'une commande du GRM, donc c'est le festival Akusma qui m'avait invité pour faire une composition diffusée sur 8 haut-parleurs. Et là, bon, il y a une réduction stéréo pour l'album. Mais sinon, j'ai passé quelques jours aux instants chavirés, j'ai enregistré des sons pour avoir une sorte de sensation de live, enfin en tout cas jouer comme en live. Et du coup, j'ai enregistré ces sons-là, j'ai recomposé, puis après j'ai refait une sensation de live.
Mais comment ça t'as enregistré aux instants chavirés? Que tu étais en train de faire un concert.
Pendant que j'étais en résidence, pardon.
Ok, en résidence, donc là t'es seul.
J'étais seul.
Ok.
Et du coup, je me suis dit là, ce que je ressens, physiquement, il faut que dans l'album, on le ressente. Donc j'ai travaillé, j'ai fait des allers-retours comme ça, avec mes notes, avec mes sensations. Puis je suis allé aussi en studio son de mixage pour recréer un peu des sensations que j'avais en live. Et aussi, il y a des sons qui existent depuis, enfin, que j'ai commencé genre en 2021, 2022. Donc c'est vraiment des recherches de des choses qui sont plutôt rugueuses, un peu harmonieuses et en même temps très percussifs. Ça parle d'évolution, d'impermanence, de transition, un peu de post-techno et puis de mélancolie. Voilà, c'est un peu...
Et est-ce que tu es parti d'une idée dans tout ce que tu viens de raconter ? Est-ce que tu es parti genre du sentiment de mélancolie pour te dire « Ok, je vais faire cet album avec ça » parce que c'est comme s'il y avait plein de matières, comme ouais, les sons d'ailleurs, qui ne sont ouais, pas à notre disposition, plein ouais, de matières sonores qui avaient déjà été enregistrées, jouées ouais, et que tu t'es dit « Ok, on va combiner, je ne sais pas s'il y a eu des nouvelles créations. »
Il y a eu des nouvelles créations en 2025 et puis depuis, ouais, on va dire qu'il y a c'est vraiment un parcours de recherche sonore sur 4 ans. L'album reconstitue, on va dire, 4-5 ans de vie et de tourments et de voilà.
Est-ce qu'il y a un fil rouge à part la vie qui passe?
C'est très viscéral, donc je veux dire c'est très un rapport personnel, mais en tout cas il y a un fil rouge de construction, de chimères, de choses étranges, des choses un peu métaphysiques, voilà, c'est un fil rouge, on va dire que moi je voulais travailler autour de la des choses percussives et puis autour de mes de travailler avec mes synthés et puis en fonction de mes découvertes parce que j'ai sur 4 ans j'ai trouvé d'autres machines donc je
justement tu travailles avec quelle machine? Comme ça, on peut se représenter un peu. On va écouter un de tes sons après notre interview. Pas pendant. Là, on te découvre toi. Mais avec quelle machine tu travailles?
Là, principalement, il y a différentes sources. C'est-à-dire, bon, déjà, il y a des synthétiseurs analogiques. Et il y a quelques prises sonores. Enfin, pardon, des prises de son de ma voix un peu que j'ai triturées. Mais sinon, voilà, c'est que constitué de... synthé synthé modulaire et de réverb, de pédales de distorsion, de fuzz, et ma voix un peu, dans quelques tracks, c'est tout.
Et une des choses aussi caractéristiques de ton travail, c'est l'improvisation.
Oui.
Et tu parlais d'essayer de partager aussi à travers cet album ce que toi tu vis à travers ton corps et tes sensations dans des lives en improvisant.
Ouais.
Et mais du coup, c'est quoi le rapport? J'avais envie de dire ton rapport à l'improvisation, mais en même temps aussi ton rapport au corps. J'ai l'impression que c'est lié, donc ouais, c'est comment lié. Ils s'imbriquent tous les deux?
Bah, parce que en fait, quand tu joues en live, c'est vrai que ton corps il reçoit les vibrations, c'est comme un baromètre où c'est une référence pour
un diapason.
Un diapason, ouais, quelque chose comme ça. Et du coup, tu t'es acteur, mais en même temps tu t'es filtre et en même temps tu reçois. Enfin, c'est un rapport entre intérieur et extérieur et tout ça est un peu intrinsèquement lié. Voilà, c'est ça.
Et puis l'improvisation, c'est mais justement, tu vois, ce rapport au corps. Donc tu ressens, nous, en tant que... Moi, je ne suis pas musicienne, mais je suis une personne qui peut entendre et recevoir de la musique en live, par exemple. Ouais. Donc nous aussi, il se passe quelque chose dans notre corps, souvent.
Ouais, exactement.
Et comment tu prends ça pour improviser? Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas jouer en live, en tout cas les morceaux qui sont sur cet album? Est-ce que tu savais déjà, ou alors c'est en fonction de ce qui se passe dans ton corps que tu dis ah ben non, je vais aller explorer un petit peu ce son là, ah ben tu sais quoi, je vais prendre cette machine. Comment ouais, c'est difficile de rentrer dans ouais. ta tête.
Ouais, ben c'est mais même enfin en fait déjà il y a beaucoup d'inattendus avec ces machines là parce que c'est des machines un peu versatiles qui donnent de l'énergie un peu, c'est comme des chevaux qu'on aimerait apprivoiser. Et du coup, tu t'injectes quelque chose, mais tu es obligé de rattraper comme si tu devais un peu modeler. C'est de l'énergie, c'est d'électricité. Et donc, tu rabats un peu, donc tu modes un peu en direct. Et puis, en fonction des sonorités plus ou moins rugueuses, intéressantes, tu baisses, tu augmentes le potard, nanana, et puis tu prends telle matière. Et voilà, c'est comme de la. Un peu de la magie du voilà, comme si tu faisais une recette en direct, mais en fait moi je sais pas, j'aime ce genre d'éprouver des choses en direct et que ça soit très physique et que ça soit un peu, j'aime pas le mot immersif, mais qui te prend vraiment en globalité, et travailler avec l'espace aussi, l'acoustique du lieu, donc tout ça c'est aussi une composante, ça joue dans ton jeu, en fait, l'espace, les enceintes et tout ça, ça résonne différemment à chaque fois. Et puis, voilà. Et des fois, effectivement, j'ai quand même une ligne directrice. Par exemple, je me dis, j'ai envie que ça soit éthéré, que j'ai envie de travailler autour de la chimère. Je veux que ça soit plus escarpé, un terrain escarpé. Ou est-ce que je veux plus de rythme? Je veux un truc obsédant ou pas? Voilà. Et puis après, je me laisse aussi jouer, surprendre par mes machines. Voilà, mais... parce que des fois elle me propulse dans d'autres trucs et puis du coup je me laisse un peu entraîner quoi. C'est un peu.
Est-ce qu'on pourrait imaginer la même modalité d'action qu'un musicien ou une musicienne de jazz qui a un petit peu genre une ligne directrice avec ses thèmes A, thèmes B et puis après il y a plein d'impro.
Oui, je pense
et
qu'il y a ça.
Ton instrument, c'est tes machines.
C'est ça. Après, je pense que dans leur système, je sais pas s'ils ont des endroits où ils arrivent à vraiment avoir des inattendus parce que il y a peut-être une corde qui se casse. Bon, voilà. Okay. Là, il faut retrouver peut-être. Mais parce que bon, après, le système de chacun est différent, donc du coup, tout ça c'est en fonction de. Oui, après, il peut avoir un feedback, par exemple, quelque chose qui va altérer le son. Oui, effectivement, là, il faut peut-être rattraper la machine, la pédale de leur...
Okay.
Tu vois, ça serait un peu ça.
Et tu parlais d'espace tout à l'heure. Tu prends quand même beaucoup d'attention aux installations sonores.
Ouais.
Et Fabien t'introduisait sur le fait qu'il va y avoir vendredi.
Oui.
Vendredi, la Willis Party,
voilà,
de ton album. Est-ce qu'il y a une installation sonore vénère qui nous attend? Est-ce qu'on peut avoir un peu des infos là-dessus?
En fait, l'installation, ça va, on va dire, ça sera le dispositif des instances. Il y aura quatre enceintes, une stéréo croisée, des subs. Après, la... les installations sonores, c'est encore un autre projet, c'est encore d'autres choses que je peux faire à côté, des compositions pour des lieux et tout. Les lives, c'est surtout des choses en direct, c'est ça. Donc il y a le public qui est au milieu.
Donc installation sonore et live, c'est deux choses différentes.
Ouais.
D'accord. S'il n'y a pas d'installation sonore d'une façon spéciale de mettre.
Non, enfin perso, okay. Il y a d'autres artistes qui peut-être font des performances où il y a des espèces d'installations où ils vont peut-être se déplacer d'une certaine manière, mais je reste très simple au milieu de la fosse et je joue. Voilà.
Ok. Et toute cette manière de composer ta musique à partir de sons qui sont tout de même bruts, exemple son d'une chaudière que j'ai pu entendre. Du coup, je vais prendre cet exemple-là parce qu'on s'imagine bien le son d'une chaudière. Comment tu glanes tes sons et comment, à un moment, tu te dis ça peut être un son intéressant qui pourrait être dans une musique. Étant donné les milliards de sons qui existent sur Terre.
Ouais, c'est vrai.
À quel moment tu dis celui-là, il m'intéresse?
C'est vrai que c'est le côté plastique. Enfin, je dirais, là, c'est le truc un peu qui revient de mon background des beaux-arts ou de l'école Boulle, un métier d'art. Ça touche le corps et puis ça me titille l'imagination. Ça veut dire que s'il m'intéresse, ça veut dire que je le désire un peu. Ça veut dire que j'arrive à me projeter. J'ai pas envie d'un son qui me séduit. Je veux pas être séduit. Je veux juste que. Voilà, j'aime pas la séduction dans le son.
C'est quoi la différence entre un son qui t'intéresse et un son qui te séduit?
Quand
le son de la chaudière, il te séduit pas, mais il t'intéresse.
Il m'intéresse. Parce qu'il est brut, il a de l'épaisseur, il a de la chair, il a de la profondeur, il y a un truc. Ouais. Okay. Et j'aime pas les trucs qui sont trop lissés. J'aime bien, rugueux quand ça a vécu ou quand ça a un truc. La chaudière, il y a d'autres sons, il y a d'autres choses qui m'intéressent quand même. J'avais fait même des tests dans ma baignoire avec des coquillages. C'est un peu gnangnan de dire ça, mais franchement, c'est quand même assez beau de mettre un micro avec des gros coquillages qui rebondissent. Ou d'autres choses. Moi, j'ai pris beaucoup de mes cymbales de batterie, des choses comme ça. J'ai commencé surtout dans ma chambre avec que les choses que j'avais autour de moi, avec des petits micros, lecteurs cassettes, et les lecteurs cassettes avec un haut-parleur intégré. Et il y avait mon enceinte et je le mettais devant. Il y avait un gros feedback et tout ça. Je le re-enregistrais avec des micros, donc ça me faisait des plein de choses comme ça. Donc c'est comme ça que j'ai glané. Puis après j'allais sur des sites EDF prendre le bourdonnement des câbles, des trucs hyper dangereux d'ailleurs, et d'autres choses, la chaudière chez mes parents par exemple, voilà.
Dernière question pour terminer cette interview, comment on se met en bonne disposition d'après toi pour t'écouter? Pour toutes les personnes qui se sont dit « Ok, ça m'intéresse, c'est curieux, j'ai envie d'aller voir le concert », vu que c'est un concert avec plein de bruits bruts qu'on n'a pas, on ne peut pas dire que c'est du classique, comment on se met en bonne disposition selon toi pour kiffer ce que tu proposes, au moins pour l'expérimenter dans son corps?
On respire, après on prévoit peut-être un petit truc, des bouchons d'oreilles. Et je pense être quand même de bonne humeur, même ça peut être une thérapie quand on va pas, qu'on soit de bonne humeur ou pas, je pense que c'est possible. Après, je pense que en revanche, quand on est chez soi, moi je vous propose quand même d'être avec des casques, des écouteurs. Faut pas écouter ça sur un ordinateur directement,
mais dans une petite bulle, quoi.
Voilà, c'est quand même plus quelque chose qu'on écoute tout seul, enfin en tout cas tout seul non, mais avec un casque, quoi, des écouteurs, bref.
Marie-Lan, merci pour cette invitation à la trance que je vous invite à découvrir ce vendredi aux Instants Chavirés.
Merci.
Eh bien, merci Mary Lamp, merci Farah. Et puis, tout de suite, on va écouter son titre, Tout Docteur.